Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, la littérature nous éclaire aussi sur l'actualité. En écho aux élections présidentielles qui viennent de se dérouler en Iran, notre invitée est Mariam Majidi, une jeune romancière née à Téhéran et exilée en France depuis l'âge de 6 ans. Elle vient de publier « Marx et la poupée » aux éditions Le Nouvel Attila, récompensée par le Goncourt du premier roman. Un texte très fort, à la fois autobiographique et poétique, où elle revient sur ses allers-retours entre son pays natal et son pays d'adoption. Comment se construire entre deux cultures, deux langues? Comment réconcilier les racines orientales avec un présent occidental? Comment se définir comme femme libre et indépendante? Autant de questions abordées ici à travers mille et un souvenirs dans une écriture vibrante et enthousiaste, à l'image de son auteur. Rencontre. Bonjour Mariam Majidi.
Bonjour.
Votre roman est comme une boule de feu incandescente, avec beaucoup d'énergie, de lumière, mais aussi de brûlure. Un centre fusionnel très dense, avec des projections également, des étincelles qui partent dans de nombreuses directions, comme si par l'écriture vous cristallisiez des sentiments, des souvenirs, des réflexions longtemps gardées en vous et qui là, par la littérature, jaillissent enfin. Quand est-ce qu'il vous a paru nécessaire d'écrire ce livre ?
Il m'a paru nécessaire de l'écrire quand je suis rentrée de mon premier retour d'Iran.
En 2003, donc.
Voilà, exactement. En 2003, j'effectue donc un premier retour, un premier voyage en Iran qui me bouleverse, qui me remue entièrement. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment d'avoir complètement perdu mon identité à ce moment-là, c'est-à-dire que je ne voulais plus rentrer en France et je voulais rester vivre en Iran, j'étais dans ce fantasme d'une patrie enfin retrouvée et je voyais pas du tout la réalité qui m'entourait en Iran. Finalement, je rentre, je déprime pendant quelques mois, j'étais pas très bien en France et là j'écris un premier conte que j'ai intitulé Le Conte de l'exil, qui est le premier conte que le lecteur découvre dans Marx et la poupée. Et je sais qu'à ce moment-là, je me suis dit, je pourrais pas juste me contenter d'un conte ou deux. Un jour, j'écrirai. J'écrirai un roman sur ce tiraillement, cette déchirure entre l'Iran, la France. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête quand j'étais en Iran? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que je suis en France? Voilà. Toutes ces questionnements, toutes ces interrogations m'ont donné envie, en tout cas, à ce moment-là, en 2003, d'écrire un jour un livre, et c'est fait.
Marx et la poupée, c'est donc votre histoire, celle d'une famille iranienne, dont les parents très engagés, militants contre le régime islamiste, décident de quitter Téhéran, le père d'abord, qui s'exile à Paris, suivi ensuite par votre mère et vous en 1986. Vous êtes dans votre sixième année.
Mmh.
C'est une vie fracturée, chamboulé par un séisme, et j'ai envie de dire presque au sens propre du terme, parce que si l'on revient sur le titre de ce roman, Marx et la poupée, cela fait référence à une scène très précise, quand avant de partir, le père enterre dans le sol ses livres communistes, interdits, dont ceux de Marx, entre autres. La petite fille, vous, enterre les jouets qui lui restent, et donc une poupée, tandis que la mère enterre ses rêves. Et finalement, vous, en écrivant, vous allez déterrer tous ces souvenirs. Mmh. La plume est aussi une pelle en ce qui vous concerne?
Oui, la plume est la pelle d'un fossoyeur à l'envers. À un moment donné, je dis ça, je dis, est-ce que mon écriture, c'est le travail d'un fossoyeur à l'envers qui ressuscite les morts, hein, d'une certaine façon? Oui, bien sûr, parce que la nécessité d'écrire ce roman était porté, était poussé et soutenu par le désir de sauver de l'oubli tous ces personnages qui ont peuplé mon enfance, qui ont peuplé ma vie hein, jusqu'à présent. Donc je parle de mes parents, je parle de Abbas, cette étoile filante révolutionnaire qui perd la vie à 20 ans parce qu'il est exécuté. Mon oncle Saman,
qui a été aussi emprisonné pendant 8 ans.
La grand-mère... cet instituteur dans la classe d'accueil qui s'appelait Julien. Voilà, tous ces personnages-là, je me suis dit, je dois les sauver de l'oubli. On peut pas les oublier. Ils peuvent pas juste traverser cette vie sans laisser de traces. Bah, je vais laisser une trace pour eux.
Oui, c'est un peu comme le petit poussé. Avec ses pierres.
Tout à fait, qui laisse les pierres
pour retrouver son chemin. Et c'est très important d'ailleurs cette image de pierre parce que c'est la première scène de votre roman où votre oncle, en prison, a trouvé une pierre et par un petit instrument, il grave votre prénom, ce qui est à la fois un acte d'amour et un geste très subversif parce que s'il se fait prendre, il va encore être sans doute puni davantage, voire torturé. Donc vous êtes le petit poussé, vous avez semé des cailloux et vous refaites le chemin à l'envers.
Tout à fait, c'est une image extrêmement juste. Et ce qui est aussi très intéressant avec cette idée de pierre, c'est la naissance, parce que cet oncle, c'est mon deuxième oncle, hein. Cette fois-ci c'est l'oncle paternel, c'est pas le même que oncle Saman qui est l'oncle maternel. Cet oncle-là donc est emprisonné et finalement, c'est un cadeau de naissance, de bienvenue dans le monde qu'il voudrait offrir à Mariam si un jour il a l'espoir évidemment de sortir un jour de prison, de pouvoir le lui offrir. Et donc, si on fait attention, on a l'impression d'une stèle, en fait, sur laquelle on grave le nom du mort. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui, moi, m'avait tout de suite marqué quand on m'a raconté l'histoire de cette pierre. Je me suis dit, oh, c'est curieux. C'est-à-dire que ma naissance et la mort ont été intimement liés. Et Marx et la poupée, ce roman que j'ai écrit, ce premier roman que j'ai écrit, est venu finalement célébrer l'angoisse, est venu célébrer tous ces gens qui ont porté leur douleur, leur souffrance. À un moment donné, je dis le mot d'injustice que chacun a en lui, quoi, qui l'étouffe. Je suis venue chanter ça, en fait. J'ai voulu chanter ça, j'ai voulu le célébrer parce que c'était une manière pour moi de conjurer justement le sort, de dire, bah, il y a une revanche possible avec l'écriture.
Oui, parce que, en fait, si on prend votre histoire à plat, on se dit, il y a un avant votre petite enfance jusqu'en 1986 en Iran, dans une famille très heureuse. Et il y a un après, l'exil en France, à Paris, dans une chambre de bonne, avec toutes les difficultés qu'entraîne votre apprentissage de la culture, de la langue, de l'école. Une résistance aussi, d'ailleurs, que vous y mettez, parce que d'un seul coup, on vous parachute dans un autre monde. Donc ça, c'est le côté froid de l'histoire. Et en fait, vous nous le racontez de façon très différente, parce que à la fois, effectivement, c'est un texte qui tient de l'autobiographie, du conte, de la poésie, du témoignage politique. C'est un roman quand même très protéiforme. Vous voulez montrer des choses quand même très différentes. C'est à la fois une histoire, mais ce sont mille histoires. Peut-être votre côté oriental aussi qui reprend...
Les contes.
Oui, je ne sais pas.
Cette forme fragmentée, comme ça, multiple. Bon, je l'ai choisie, évidemment, c'est pas un hasard. Je l'ai choisie parce que je trouve qu'elle dit quelque chose de l'identité de l'exilé. Je trouve que l'exilé... vous avez parlé tout à l'heure, et je trouve ça très juste, de fracture. Il y a comme une... Moi, j'emploie à un moment donné le mot de balafre. Il y a une espèce de cicatrice comme ça. Et donc, il y a eu à un moment donné ça dans la vie de l'exilé, dans son parcours, c'est-à-dire ce qui fait qu'un homme devient exilé, une femme devient exilée, et là, en l'occurrence, un enfant. C'est cette séparation entre un avant et un après. Il y a donc une fracture. Il y a vraiment comme si on était à un moment donné coupé en deux. Une partie de nous est restée là-bas, une autre partie est dans ce nouveau pays. Et j'ai voulu donc aussi donner cette forme comme ça, le foisonnement des histoires, des anecdotes, la mémoire d'un coup qui se réveille. Et donc l'auteur que je suis a essayé de tout rassembler, hein, cette obsession du « je rassemble ». Il y a comme un éclatement et il faut que je lui donne une cohérence. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect d'histoire à l'intérieur d'une autre histoire, il y a quelque chose comme ça qui d'un enchevêtrement d'histoire. Et c'est très juste, ça rejoint les contes des mille et une nuits aussi. Bien sûr, je suis aussi issue de cette tradition.
لو كنت مفلس لو كنت مبوس فايق مفقوس مني ومكرس
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de la romancière Mariam Majidi, avec qui nous parlons de ce premier roman Marx et la poupée, qui a obtenu le Goncourt du premier roman récemment. Alors nous avons parlé en première partie de cette histoire singulière qui est la vôtre, née en Iran, exilée à Paris en 1986, où vous avez fait toute votre éducation, vos études. Et puis en 2003, pour la première fois, vous décidez de retourner en Iran, sans vos parents d'ailleurs.
Oui.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que on avait décidé, pour moi, à ma place, de m'arracher à l'Iran quand j'avais 6 ans. Donc c'est une décision qui venait des parents. Et que j'avais besoin, moi, d'y retourner pour comprendre d'où je venais, tout simplement. Et c'est vrai que je ne pouvais le faire que seule. C'était une manière pour moi de reprendre mon destin en main. C'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais de redevenir maître de ma vie. Et donc j'avais besoin d'y retourner. J'avais besoin de dire aussi à ma famille restée là-bas, je viens vraiment vers vous. Je fais ce cheminement, ce trajet pour vous voir.
Et d'ailleurs, vous y êtes retournée à plusieurs reprises. 4 ou 5 fois,
oui,
si j'ai bien compté.
C'est ça,
il y a même
ça.
Une fois où vous étiez tombée amoureuse et vous vouliez plus repartir du tout. Vous aviez envie.
C'était
alors...
la première fois, c'était le premier retour.
Ah.
Ouais.
Qu'est-ce que vous a raconté votre grand-mère pour vous convaincre de retourner en France?
Bah, elle me dit, tu ne connais pas ce pays. Déjà, tu ne le vois pas, ce pays. Tu as les yeux pleins de, comment on dit, de buée, de brume. Tu ne vois pas cette réalité iranienne. Bon. Et puis surtout, tu n'as pas grandi ici. Tu n'as pas les codes pour vivre en Iran. Et elle ajoute que j'incarne une forme de liberté qui serait difficilement compatible avec les codes en vigueur en Iran, en tout cas en 2003.
Même si c'est un pays, vous le montrez très bien, un pays qui est quand même très paradoxal.
Totalement.
Parce que à la fois, il y a une répression comme ça dans la rue, surtout envers les femmes, pour peu qu'elles n'aient pas le code vestimentaire
oui,
approprié. Et en même temps, il y a des fêtes très cachées, avec de l'alcool, avec beaucoup de liberté. Et
mais oui, mais c'est un pays totalement paradoxal. Il est vraiment très difficile de tenir un discours univoque comme ça sur l'Iran. Je n'y crois pas, c'est pas possible, c'est mensonger. Parce que c'est un tissu de contradictions. Et j'ai essayé d'en parler un peu, en tout cas dans Marx et la poupée. Moi, je voyais une vérité, puis je voyais le contraire de ça. Je voyais une contre-vérité. Tout fonctionne comme ça. On voit des femmes extrêmement fortes, extrêmement courageuses et libres. Et on en voit qui peuvent se faire attraper parce que, voilà, le foulard est mal mis. On voit des hommes qui luttent pour les droits des femmes. Et on en voit d'autres qui sont prêts à les fouetter parce que elles ont fauté ou elles ont... Donc, tout est pris comme ça dans des vérités, des contre-vérités. Dans une réalité et une autre réalité qui vient contredire la première. Donc, qui peut aujourd'hui prétendre cerner ce pays? C'est pas possible.
Revenons au roman. Qui dit deux pays, deux cultures, deux éducations, deux langues. Et là, c'est très intéressant, Mariam Majidi, parce que quand vous évoquez votre bilinguisme, au début, c'est comme un duel. Alors d'abord, le persan a rejeté le français, qui ensuite a effacé votre langue maternelle, au point qu'il vous a fallu prendre des cours à nouveau pour la maîtriser parfaitement. Et puis aujourd'hui, vous avez fait le choix d'écrire ce roman en français.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que c'est ma langue, parce que c'est la première langue que j'ai apprise à l'école. Moi, j'ai appris à lire et à écrire en français.
Mais ça n'est pas votre langue maternelle.
Mais non.
Parce que souvent, on dit qu'on écrit dans sa langue maternelle. Là, en l'occurrence, j'ai envie de vous dire que le persan, c'est votre langue paternelle, voire grand-maternelle. On a l'impression que c'est de votre père et de votre grand-mère que viennent plutôt ces envies que vous parliez le persan avec eux.
Oui, c'est vrai, parce que c'est le père qui dit « Sous mon toit, on parlera persan, parce que sinon tu vas oublier ta langue, la langue de tes origines. » Que la grand-mère finit par, comme une espèce de métamorphose, elle finit par devenir le persan aussi, tout au long du roman, comme ça.
Il y a une métaphore.
Oui, il y a une fusion
une
de la grand-mère. Voilà, une fusion de la grand-mère et du persan, elles finissent par être la même chose. Mais bien sûr que le français est ma langue. Enfin, je veux dire, je n'ai pas 2 secondes hésité à l'écrire en français. Parce que c'est ma langue d'écriture et de lecture. Voilà, à 6 ans, c'est cette langue-là. Et le persan est toujours resté à un stade oral, en fait.
Oui, mais néanmoins, vous l'étudiez, vous le connaissez par cœur, vous récitez de la poésie persane.
Oui, mais je le lis et l'écris très mal.
Ah bon ?
Oui, il faut, je pense, faire la différence entre une langue maternelle parlée à la maison et une langue apprise à l'école. La langue apprise à l'école est une langue qui a une base solide puisque très vite, on se met à penser dans cette langue-là. Moi, j'ai commencé à penser en français. Donc, j'aime en français. Je rêve en français. Voilà. Et donc, j'écris en français. Je pense en français. Le persan, c'est la langue que j'utilise pour parler avec mes parents, pour parler avec des gens qui me rattachent à l'Iran. C'est vraiment un usage, j'ai envie de dire, presque limité à ça. Après, comme je le lis mal, bah, il m'arrive très rarement de lire des choses en persan. Je dois toujours passer par, soit de demander à mes parents, soit de passer par une transcription. Enfin, c'est quand même laborieux.
Donc, c'est pas tout à fait un choix, en fait. C'est juste naturellement que vous écrivez en français.
Bien sûr.
Quel est votre métier, par ailleurs ?
Je suis enseignante, en fait, de FLE, français langue étrangère, à la Croix-Rouge française. Donc, je donne ces cours, donc, de français à des mineurs isolés étrangers, qu'on appelle aujourd'hui, je sais plus, les mineurs non accompagnés. Bon, ça, c'est toujours les changements de sigle. Et alors, pourquoi, ce public? C'est vraiment une question que je me suis souvent posée. Parce que déjà, on a l'exil en commun. Parce que j'essaye d'éviter de faire ce qu'on a fait avec moi, à savoir la laverie.
Vous voyez, on a essayé d'effacer votre identité.
D'effacer le persan en moi.
Voilà. Pour vous imposer d'effacer un standard l'Iran français. Ouais.
Voilà. Donc, j'essaie de lutter contre, voilà, l'assimilation, en fait. Les tendances dangereuses et risquées de l'assimilation. Et de leur dire, vous allez avoir besoin du français. Vous pouvez avoir des blocages, vous pouvez rejeter cette langue parce que ça fait partie aussi du processus. Mais il y a un moment donné, va falloir vous réconcilier avec elle parce que c'est cette langue-là qui va vous permettre de vivre dans ce pays en ayant la tête haute. Voilà.
Comme un arbre qui a plusieurs branches.
Oui, vraiment. Et surtout de leur dire, le pays qui vous a vu naître, moi je suis pas en train de l'effacer. Je le prends en compte, ce pays. On va même lui faire une place dans la classe de cours, dans la salle de cours. Vous allez me parler de vous aussi à travers votre pays d'origine. Et je me souviens d'un élève afghan que j'ai eu, d'un mineur isolé étranger qui était un jeune afghan. Je voulais leur faire écrire de la poésie sur leur pays d'origine, etc. Et il m'a dit, j'ai tout oublié de l'Afghanistan. C'était le premier vers de son poème. Et ça m'a complètement renversée. Et j'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, mais parce que sinon je peux pas avancer. Et j'ai pensé à la petite Mariam, qui a comme ça dit, non, c'est bon, moi le persan je veux plus qu'on m'y ramène, parce que sinon je peux pas avancer dans le français. Et je trouvais cette phrase, vraiment ce vers très beau, j'ai tout oublié de l'Afghanistan. Et je me suis demandé, mais combien d'étrangers font ce travail comme ça, d'effacement d'eux-mêmes, pour pouvoir avancer là?
Et vous, à l'inverse, aujourd'hui, vous pouvez dire, je n'ai rien oublié de l'Iran.
J'ai essayé de tout sauver de cette mémoire oublieuse, parce que la mémoire est oublieuse toujours, mais d'essayer en tout cas de restituer effectivement cette part de moi-même. Oui.
Le livre est structuré en trois naissances. Vous comme être vivant, vous comme exilé en France, et puis vous comme iranienne, même expatriée, à quoi on peut ajouter une quatrième naissance,
oui,
comme écrivain.
Elle est belle, cette naissance-là, ouais. Mais elle est exigeante parce que la suite, c'est la question de la suite. Un concours de premier roman, c'est super, c'est un très bel encouragement.
Comment est-ce que vous avez reçu ce prix?
Ce prix.
Et vos parents, peut-être?
Moi, déjà, j'ai été extrêmement heureuse. Évidemment, j'étais dans une joie folle pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que c'est super important que ce soit le nouvel Attila aussi, c'est-à-dire ma
l'éditeur,
maison d'édition,
ouais,
à qui on donne aussi
un
coup de projecteur. Voilà, que d'autres voix éditoriales se fassent entendre. Je trouve ça déjà super important et je remercie vraiment l'Académie Goncourt pour ce choix-là aussi. Et la deuxième raison qui m'a remplie de joie, c'est que je me suis dit, mais quelle, c'est une belle reconnaissance et quel encouragement aussi pour la suite. J'ai senti cette quatrième naissance à ce moment-là aussi. Mmh.
Merci beaucoup.
Merci à
Mariam
vous.
Mariam Majidi. Et je rappelle le titre de ce premier roman, Marx et la poupée, qui a paru aux éditions Le Nouvel Attila.
Merci beaucoup.